Je pense que, comme pour ma vie, dans vos vies, c'est quelque chose qui peut venir rencontrer des situations que vous traversez. Vous savez, la question, c'est toujours, on proclame beaucoup, on est des experts en proclamation, et puis la réalisation suit assez peu, ou difficilement plutôt, suit difficilement la proclamation. Or, si on comprend que le miracle de notre foi, c'est pas que nous croyons en Dieu, c'est que Dieu croit en nous. Le miracle de notre foi, c'est que on n'a pas à le chercher, il est là. J'ai aimé ce temps de, bien sûr, j'ai apprécié ce temps d'onction d'huile. On le vit parce que on obéit à la parole, mais la parole, c'est Christ. C'est donc lui présent ici qui nous invite. Et la guérison ne vient pas de la proclamation de la parole. La guérison vient de sa présence. Il est lui-même, parce qu'il est là, la proclamation de sa parole. Et donc, la guérison, elle vient parce qu'il est là. C'est sa présence qui déclenche tout. Et si on est conscient de sa présence, peut-être on ne va pas passer trop de temps à la réclamer. Et au fond, quand j'ai... Vous vous demandez peut-être quel rapport avec la première phrase, mais Dieu nous fait le cadeau de sa présence. Ça, c'est gratuit. Et les conséquences de sa présence... qu'on peut appeler la maturité dans la foi, hein, parce que c'est ça qu'il vise, c'est notre maturité. Éphésiens 4:11, à l'état d'homme fait, à l'image parfaite de Christ. Ça, c'est notre travail. Et notre travail, il passe par des moments qui sont faciles, difficiles, qui sont des combats, pas des combats, qui sont des guerres, pas des guerres, qui sont des choses qu'on comprend, qu'on ne comprend pas. Mais ça n'a finalement pas beaucoup d'importance si nous avons conscience qu'il est là. Il est là dans notre vie. Et c'est cette proximité avec lui, cette intimité avec lui, cette relation avec lui qui change nos vies, plus que nos proclamations. C'est bien sûr qu'il faut proclamer, mais c'est le fond de notre cœur, c'est ce temps qu'on passe avec lui, c'est ça qui change notre vie. J'avais en tête un certain nombre de personnages bibliques, mais je ne veux pas prendre trop de temps pour que pas empiéter sur le temps de mon ami Pierre. Mais prenez quelques exemples, prenez Abraham, prenez Moïse, prenez Joseph, prenez Josué, prenez Daniel, prenez Jésus, bien sûr, mais ils ont tous vécu pour être un homme fait. Les uns, ils ont traversé des erreurs. Les autres, ils ont été confrontés à leur faiblesse. Les troisièmes, ils ont dû être confrontés à la persévérance. Le quatrième, il a été confronté à la nécessité de cultiver cette présence de Dieu. L'autre, il a dû apprendre à se mettre à part, à ne pas... Je ne vous dis pas les noms, vous les chercherez. Mais vous comprenez que je parle des hommes de la Bible. Et nous, on en fait des combats, alors que Dieu en fait des rencontres. Si nos difficultés, nos circonstances, nos crises sont autre chose que des rencontres, nous n'en recevrons pas les fruits. Les dons sont gratuits. Et la maturité coûte cher. Amen.
Merci Gilles. Alléluia. Merci Gilles pour cette exhortation. Merci aussi de l'accueillir le jour de la fête de l'escalade. C'est un Savoyard, donc c'est quand même courageux et de votre part et de sa part d'avoir risqué de venir en plein... dans cette fête de l'escalade, hein, 2 jours maintenant. Le royaume de Dieu, heureusement, n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité, je dirais. Il est multinational. Il y a actuellement un mouvement incroyable en France. Je ne sais pas si ça ne risque pas de vous contaminer. C'est ce qu'on appelle le décolonialisme. Dans ce mouvement de décolonialisme, l'idée est très, très, très généreuse, super généreuse, hein, qui ne serait pas pour la décolonisation. Le problème, c'est qu'en fait, cette décolonisation se fait au prix d'une montée de nationalisme, d'une montée de revendication des races. Et du coup, c'est un racisme qui ne dit pas son nom et qui est en train de toucher la France d'une manière terrible. Et plus que jamais, il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, hein, de manière multinationale et pas de manière nationaliste. Hein. Je vous rappelle que d'ailleurs, c'était déjà le débat au temps de Jésus. Je ne pense pas que finalement le message du Christ soit complètement hors de portée de notre époque. Moi, ce qui m'intéresse justement de lire l'Écriture dans ce qu'elle a de réaliste pour les temps que nous vivons, et c'est clair qu'à l'époque de Jésus, il y avait une double attente. Il y avait une attente nationaliste. Hein. Quand viendras-tu restaurer le royaume d'Israël ? Traduction, quand tu viendras mettre la pâtée aux Romains ? Quand tu viendras bouter hors d'Israël, de ses confins, tous ses ennemis, qu'ils soient romains ou samaritains finalement ? Quand viendras-tu honorer une race pure ? Et rétablir le royaume donc d'Israël dans ses dimensions nationalistes. Certes, Jésus voulait restaurer le royaume d'Israël, mais en lui offrant le royaume de Dieu, hein, le royaume du Père, parce que ça, c'est le royaume du Père qui peut seul nous permettre de voir une restauration, hein, de quelque nation que ce soit, c'est que nous entrions dans le royaume. Et j'aimerais ce matin vous faire part de quelques découvertes. Il y a eu cette parole dans la louange que je voudrais suivre, cette parole qui dit revenir à un Dieu d'amour, un Père d'amour, revenir à l'essentiel finalement. Et c'est très important que nous revenions à l'essentiel. Et je voudrais vous faire part de quelques découvertes que j'ai faites. Je suis sûr que l'identité de notre Seigneur, l'identité de Yahweh est très importante. Il m'est arrivé d'être invité à prêcher une fois à Jeunesse en Mission sur l'identité de Dieu. J'ai dit « Waouh ! » Dis donc, l'identité de Dieu, ouais, c'est un sacré morceau. Mais je me suis rendu compte combien c'était tellement important aujourd'hui de savoir qui est le Seigneur, quoi. Savoir celui que nous adorons, celui qui est au centre du royaume, celui qui est le royaume lui-même d'ailleurs. Hein, on va le voir dans quelques instants. Mais d'abord, trois obstacles majeurs que je vois quand il s'agit de revenir à l'essentiel. Un premier problème que je vois, c'est le mot Dieu lui-même, en fait. Vous le savez tous, francophones, c'est que ce mot vient du latin Deus, et que le mot Deus vient en droite ligne du mot Zeus. Donc on a tous un problème, d'ailleurs toutes les nations ont ce problème-là, hein, d'ailleurs. Hein. C'est que finalement nous sommes allés emprunter dans notre paganisme, finalement un mot qui essaye de parler du Seigneur, de Yahweh. Alors imaginez l'entreprise, je veux dire, vouée à l'échec. Quoi. Comment Zeus peut-il nous dire quelque chose sur Yahweh ? Pour à mon avis plein de raisons, mais enfin la première, c'est que Zeus est un dieu de violence, un dieu de guerre, un dieu qui, même s'il est au sommet d'une pyramide ou quoi que ce soit, est un dieu qui lance des éclairs, voyez, alors que le Seigneur que l'Écriture nous présente est effectivement un Seigneur qui lève la main, mais quand il lève la main, il a les poignets percés. Première grande, je dirais, grande différence entre Zeus, Deus, Dieu, et finalement Yahweh, celui qui se donne, le Père, un Père sacrificiel au travers de Jésus-Christ, qui vient avec des mains percées, un côté percé plutôt qu'un le chef d'un panthéon quelconque. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème aussi concernant cette image de Dieu, c'est qu'en fait, elle est unitaire. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une personne dans cette conception de la divinité, alors qu'il est clair que Yahweh est une trinité, est une équipe, et c'est le fondement même de la communauté, de la famille, cette équipe. C'est le fondement même de toute communauté chrétienne. C'est que nous adorons une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont indissociables. Et c'est ce qui fonde notre rassemblement ce matin. Nous sommes cette communauté qui nous rassemblons. Parce que la Trinité, ça c'est une belle chose aussi, n'est pas une secte, c'est un cercle ouvert dans lequel nous pouvons rentrer et sortir. Et c'est une très très belle image de la famille. Et ce qui me convainc toujours et toujours plus, que finalement, nous ne pouvons pas être seuls. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, pas seulement dans le mariage, mais aussi dans tout ce qu'il entreprend, l'homme, qu'il soit homme ou femme, nous sommes une équipe. Si le Seigneur est une équipe lui-même, une divine équipe, comment pouvons-nous faire les choses chacun de notre côté? C'est juste pas possible. Je crois même qu'il y a des rêves que le Seigneur nous a donnés qui ne pourront s'accomplir que si nous sommes en Église et que si nous travaillons en Église. Parce que pour nous, tout seuls, ces rêves sont trop écrasants. D'ailleurs, s'ils sont du Seigneur, il y a une grande chance que les rêves soient trop grands pour nous. Hein. D'ailleurs, les deux caractéristiques d'un rêve du Seigneur dans nos vies, elles sont simples, c'est que c'est trop grand et c'est impossible. Si vous dites, ouais, moi, de toute façon, mon problème, c'est que j'ai des rêves trop grands et des rêves impossibles, j'ai envie de te répondre, ben non, c'est pas ton problème, c'est justement l'opportunité que tu as de reconnaître que ça vient de lui. Parce que les rêves humains, en général, ils sont possibles et atteignables. Mais les rêves divins, les rêves que Dieu a mis dans nos vies, sont juste pas possibles et sont juste impossibles à atteindre et sont beaucoup trop grands pour une seule personne. Et c'est pour cette raison que le Seigneur souhaite que nous les vivions, ces rêves, en communauté. Ça, c'est le premier exemple. J'étais aussi en Roumanie avec mon ami Gilles, ici présent. On était atterrés de ce dont tu parlais en début de culte, cette solennité qui est une austérité, mais qui n'est pas une fête, finalement. On peut se demander si on est dans la maison du Père ou dans la maison de Zeus, tu vois, finalement, dans un temple grec, plutôt que finalement dans la maison du Père, quoi. Et quand vous êtes en Roumanie, je ne peux pas prétendre connaître l'Église roumaine parfaitement, et loin de moi de vouloir la critiquer, mais j'ai été tellement marqué par cette impression qu'on est dans le temple de Zeus plus que dans la maison du Père. Et je voudrais vraiment vous encourager les uns les autres à accueillir ce Père, à être cette maison du Père. Et le royaume de Dieu, je vais enlever le mot Dieu du coup parce que ça m'écorche la bouche, c'est avant tout le royaume du Père. Et il est au centre de ce royaume-là. Et quand j'allais prêcher, et finalement on me demande de prêcher dans cette église, et je demande, mais au fait, comment on dit Dieu en roumain? Et on me dit Domnezeu. Domnezeu, vous voyez très clairement le passage par le latin. Il y en a qui ont fait du latin ici. Hein, voilà. Vous reconnaissez Dominus, hein, le maître, et puis Zeus, ben c'est Zeus, quoi, le maître Zeus. Vous vous rendez compte, comment voulez-vous que ça n'ait pas de conséquences sur notre adoration si nous, finalement, c'est les neurolinguistiques, linguistes, qui pourraient vous le dire ça. Chaque fois que nous lançons ce mot, il nous revient comme un boomerang, quoi. Alors, bon, je ne veux pas en faire une mode, attention, hein, dans l'évangélisation, je ne vois pas comment on peut ne pas utiliser le mot Dieu, hein, parce que dans l'évangélisation, on n'a que ce mot à notre disposition, finalement. Mais je dirais, soyons attentifs simplement à ces mots qui ont pu se glisser au cœur même de l'adoration et qui véhicule finalement des images, à mon avis, destructrices. Ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, je crois qu'il vient aussi de notre propre cœur. Et vous savez, Jean Calvin a dit que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Je trouve qu'il a tout à fait raison, parce que nous sommes capables de tout prendre et de tout fabriquer en idole. Toi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? C'est avant tout, c'est de se faire sa propre conception des choses. Et puis, en deuxième temps, c'est de prendre ce qui est secondaire et légitime et d'en faire quelque chose d'ultime et premier. Ouais. Secondaire, légitime, et d'en faire quelque chose d'ultime et premier. Or, nous vivons dans notre quotidien, dans un monde où tout est finalement légitime et secondaire. Hein. Tout est légitime, tout, absolument tout. Nous nous entourons d'ailleurs constamment que de choses légitimes, mais qui, aux yeux du Seigneur, sont finalement que secondaires. Or, le problème, c'est que tout ce qui est légitime et secondaire, par le truchement du cœur humain, peut très vite se retrouver à la première place de nos vies. Et c'est terriblement facile. Cette usine à idoles peut transformer n'importe quoi de secondaire et de légitime en quelque chose d'ultime et de premier. Même les choses les moins dangereuses, hein, peuvent, et je crois que vous avez compris que, alors bien sûr, on pense à l'argent, nous, les serviteurs du Seigneur, notre ministère aussi peut devenir une idole. Finalement, beaucoup de choses peuvent devenir une idole, et j'ai même découvert que même la Bible pouvait devenir une idole. Donc, voyez-vous, on est mal barré, je veux dire, on devrait en tout cas avoir beaucoup d'humilité et de se remettre clairement devant le Seigneur, et surtout de lui demander ce collyre, ce fameux collyre, oh, ce collyre. Merveilleux remède, merveilleux médicament, merveilleuse pharmacopée dont personne dans l'Église ne peut se passer. Pharmacopée par lequel nous demandons « Donne-moi un collyre afin que je voie si je ne suis pas nu, en fait. » Vous connaissez tous d'ailleurs ce conte d'Andersen, le roi est nu, vous vous rappelez, ce roi qui se laisse flatter par deux gars qui lui prétendent lui faire un vêtement invisible. C'est vraiment génial ce conte. Mais quelle leçon par rapport à ce passage d'Apocalypse. Achète de moi un collyre afin que tu vois si tu es pas nu, en fait, si tu vois que tu es nu, en fait. Et ce roi se fait habiller comme ça, soi-disant, avec ce fil magique comme ça. Et personne autour n'ose lui dire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça le problème des cours. Vous voyez, c'est bien d'avoir des gens loyaux autour de soi, des gens qui nous encouragent, mais attention au cours. On a besoin de gens qui nous disent la vérité dans l'amour, vous voyez, parce que sinon, on va se retrouver un jour tout nu et personne n'osera nous le dire. Vous voyez. Et c'est ce qui est arrivé à ce roi, et c'est ce que je retiens dans ce conte d'Andersen, c'est que le roi va à un moment donné présenter son vêtement comme ça, avec la nouille à l'air finalement, dans les rues de sa cité, et il n'y a qu'un enfant qui va oser lui dire la vérité. Hein. Où est cet enfant ? Seigneur, pourvois au collier, pourvois l'enfant qui... dans un coaching inverse, finalement, un coaching inversé va venir nous dire la vérité, hein, sur notre positionnement, sur qui on est, ou sur ce que nous faisons, sur la vérité, la profondeur des choses dans lesquelles nous sommes engagés ou pas. Nous avons besoin de ça, et ce genre de choses qui nous font revenir à l'essentiel. Vous voyez, vraiment ce genre de choses qui nous font revenir à l'essentiel. Et puis, troisième obstacle, bien sûr, et ça, je vous invite à lire La Cabane, The Shack en anglais, mais La Cabane en français, puisque c'est traduit, très 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 beau roman, hein, c'est très très beau roman qui a été critiqué par les théologiens, mais l'auteur a une grande excuse, c'est pas un livre de théologie, c'est un roman, et j'ai trouvé très bonne la réponse. C'est un roman, prenez ce que vous voulez, rejetez ce que vous ne voulez pas, mais c'est un excellent roman, et notamment à un moment donné, vous avez cette fameuse image, cette femme qui représente le père, d'ailleurs c'est une mama noire, une très belle mama noire, pleine de sagesse, et l'auteur a fait exprès pour faire tomber, vous savez, toutes ces pesanteurs, toutes ces images qui viennent si facilement quand on dit Dieu précisément, ces images qui nous persécutent finalement, occidentales, etc. Et justement, il fait jouer le rôle du père par une maman africaine justement pour changer, pour nous, j'ai envie de dire, nous déstabiliser à salut. Nous avons besoin de temps en temps d'être déstabilisés à salut. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois que Jésus est le premier à avoir fait ça en utilisant des paraboles, parce que les paraboles ne vont jamais dans le sens dans lequel le sens commun semble vouloir s'engouffrer. En général, toutes les paraboles servent à aller au sens inverse, justement, pour nous réveiller. Parce que nous aimons tellement les dogmes, nous aimons tellement les certitudes, nous aimons tellement les choses qui tombent comme ça. C'est comme ça, et pas autrement. Et finalement, nous nous endormons de manière très dogmatique sur nos certitudes évangéliques. Alors que l'avantage de la parabole va nous secouer, elle va dire, allez, réveille-toi, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que tu le pensais. Et ça, c'est génial, et je voudrais justement quelques instants vous en parler. Et donc, le troisième obstacle, donc, je voulais citer, c'est le fait qu'effectivement, comme le dit cette mama dans la cabane, je ne suis pas la meilleure version de toi-même. Waouh, ça c'est excellent ça. Je ne suis pas la meilleure version de toi-même. Ça c'est mon top 10 là, des citations cette dernière année. Je ne suis pas. Dites à votre voisin, tu n'es pas la meilleure. Le Seigneur n'est pas la meilleure version de toi-même. Ça va être libérateur, vous allez voir. Dites à votre voisin cela. Le Seigneur, cher Stéphane, n'est pas la meilleure version de toi-même. Ouf, hein? Alléluia, ouf. Et même, les amis, vous savez, en psychologie, je lisais un texte l'autre fois, ça m'a horrifié. La psychologie prétend que nous devrions devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais vous savez ce que j'ai envie de dire, c'est complètement à l'inverse du christianisme. Ça. Et surtout, n'essayez pas de faire ça. N'essayez pas de devenir la meilleure version de vous-même. Surtout pas. Vous savez pourquoi? Parce que si les scribes et les pharisiens étaient la meilleure version d'eux-mêmes, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je peux comprendre éventuellement l'objectif, hein, être la meilleure version de soi-même, je peux éventuellement comprendre l'objectif. Mais attention, les objectifs peuvent être bons des fois, mais la dynamique par laquelle on s'y rend peut être absolument terriblement destructif. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est la perfection. De toute évidence, dans l'Écriture, il y a deux moyens d'atteindre cette perfection. La loi propose un moyen d'atteindre la perfection, sauf qu'elle n'a conduit jamais personne à la perfection et elle a tout complètement échoué dans ce ministère-là. Donc, si on fait confiance à la loi qui est parfaite, par ailleurs, de nous conduire à la perfection, ce serait tout à fait normal, puisque si nous croyons que la loi est parfaite, alors on dit, ben génial, on va demander à une personne parfaite de nous conduire vers ce qui est parfait. Sauf que la loi, tout en étant parfaite, n'a rien conduit à la perfection. Vous découvrirez ça dans Hébreux chapitre 10. Mais l'autre dynamique de la perfection, c'est l'amour. Or, l'amour est le lien qui nous... qui est le lien de la perfection, nous dit l'Écriture. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, voilà. Donc, encore une fois, c'est complètement dévastateur d'imaginer que nous sommes appelés à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Non, 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 surtout pas, n'essayez pas, parce que on risque de développer une maladie. Alors, je vais lui donner un nom, il faut que je retrouve le nom que je lui avais donné. C'est une A... ABP, une acceptation basée sur la performance. ABP, vous voyez comment on peut être atteint d'ABP? ABP, on est atteint d'ABP quand on croit que l'acceptation est fonction finalement de l'acceptation du Père finalement est fonction de ce que nous allons pouvoir performer, nous allons pouvoir produire pour lui plaire. Je crois que, et ça j'aime à le dire, et je le dis de plus en plus, mais alors de partout, je le dis de plus, même aux jeunes, vous savez, je suis étonné, souvent je passe du temps avec les jeunes dans des écoles où des jeunes ont été élevés dans des familles chrétiennes, et ils arrivent dans ces écoles-là, et je suis étonné de voir qu'on peut avoir, vous savez, des scribes et des pharisiens de l'âge de 20 ans. Quoi. C'est effrayant pour moi de voir... mais en même temps, c'est un peu inévitable. Mais bon, parce que, vous voyez, si on pense que le christianisme, finalement, c'est l'acquisition d'une moralité, je ne vois pas ce qu'on peut produire d'autre que des scribes et des pharisiens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on ne parle pas d'une rencontre, d'une transformation, voilà. Alors, le Seigneur m'a donné un moyen un petit peu de provoquer, je dirais, comme une réaction intérieure. Je disais, vous savez, personne n'est sauvé. Hein. Il y a absolument personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être sauvé. Il n'y en a qu'un qui est sauvé, c'est le Christ. Et le seul moyen pour vous d'être sauvé, ce n'est pas en pratiquant l'acceptation basée sur vos performances, mais c'est en étant en lui. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Le péché est un truc tellement, mais on n'a pas idée de la radicalité du problème. On n'a pas idée combien le péché est absolument insoluble. Il l'est toujours d'ailleurs insoluble. Il n'y a pas de solution au péché. Ce n'est pas solutionnable de manière humaine. C'est insolutionnable encore aujourd'hui et même après que le Christ soit venu. Par contre, ce que le Christ a amené, la différence totale qu'il amène, c'est que lui est le seul qui soit sauvé, le seul. La Trinité, Dieu finalement est le seul sauvé, et le seul moyen d'être sauvé, c'est d'être en lui. En lui. Et à part cette position stratégique d'être dans le Père, d'être dans le Fils, d'être dans l'Esprit Saint, eh bien, il n'est pas de sécurité concernant donc la vie éternelle. Hein. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que la vie éternelle aussi, c'est pas juste quelque chose qui se perdure comme ça, c'est avant tout une qualité de vie. Une qualité de vie. Je trouve que nous, occidentaux, parce que nous sommes matérialistes, nous n'avons vu que dans l'éternité, à aionios en grec, que le truc qui se poursuit comme ça, qui se perpétue comme ça. Une l'idée d'un temps qui continue comme ça. Ça, c'est une vision hyper, hyper matérialiste. Et finalement, ça nous a amené à prêcher l'évangile comme ça, crois au Seigneur Jésus et quand tu seras mort, ben, tu vivras éternellement. Alors que je crois que le salut n'a jamais du tout été prêché comme ça au temps de Jésus, au temps des apôtres. Et quand vous relisez les actes, vous en serez persuadés. Vous ne trouverez jamais d'ailleurs de mention de l'enfer dans la prédication des actes. On pourrait y revenir, ça si vous intéresse une fois. Et puis, on ne voit jamais non plus cette idée que croire Seigneur Jésus, c'est vivre éternellement après la mort. Alors, comment l'évangile est présenté du temps de Jésus de manière complètement incarnée, c'est-à-dire dans le sens où la vie éternelle n'est pas une vie quantitativement longue, la vie éternelle c'est une vie qualitative, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, hein, le seul vrai Père, j'ai envie de dire, hein, à cause du mot Dieu tout à l'heure, le seul vrai Père, c'est-à-dire qu'en fait, le être sauvé, c'est entrer dans un royaume, et c'est entrer en relation dans ce royaume. C'est ça, c'est comme ça qu'était défini le royaume de Dieu, le salut, en tout cas, au premier siècle. Et on a tellement besoin de revenir aux conceptions du premier siècle. Dans Marc 9, parce que je voudrais... qu'on arrive à ce point-là. Dans Marc 9, et là j'ai été tellement marqué ces derniers temps par le chapitre 9. Mon problème de plus en plus, c'est qu'avant où le Seigneur me parlait par des versets, maintenant c'est des chapitres entiers. Alors ça me pose un problème parce que avant, quand c'était un verset ou deux, comme ça allait bien, je pouvais encore un petit peu gérer. Mais maintenant je suis carrément submergé. Parce que je lis le passage, je dis Seigneur, waouh, tout s'explique dans ce chapitre, j'avais besoin d'avant, d'après, beaucoup plus, etc. Je découvre beaucoup plus l'importance du contexte, de plus en plus, de plus en plus. Et pour moi, le contexte, c'est presque plus principal que n'importe quoi, parce que dès que vous comprenez le contexte, ça s'éclaire tout, quoi. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Exemple, Marc 9, vous prenez le premier passage de Marc 9, et Jésus dit précisément aux gens que, je vous le dis en vérité, il y en a parmi vous qui vont goûter le royaume de Dieu, quoi. Il y en a qui ne mourront pas tant ils n'auront goûté le royaume de Dieu, quoi. Donc, vous voyez, si on vient avec une conception, le salut, c'est quand on meurt, etc., on va dans la vie éternelle. Donc, voilà, comment on peut comprendre un tel verset? Mais quand on comprend le royaume de Dieu comme étant finalement le Christ lui-même, la première expression du royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus. Le royaume de Dieu n'est pas un truc, n'est pas un machin, n'est pas un système. Le royaume de Dieu, c'est une personne. La première des personnes, la première expression du royaume de Dieu, c'est Jésus. Quand Jésus, le royaume de Dieu est au milieu de vous, il désignait sa personne. Et nous sommes appelés à rentrer dans sa personne. Et rentrant en relation dans sa personne, ben nous rentrons dans le royaume de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Au début de Marc 9, il leur dit, mais mes amis, vous ne mourrez pas sans avoir goûté la réalité de ma personne. Vous allez voir le royaume de Dieu en ma personne. Déjà, il y a déjà du royaume de Dieu. On sait qu'il y a un pas encore du royaume de Dieu. Et vous m'avez sûrement entendu dire que le royaume de Dieu, c'est comme une femme enceinte qui est déjà enceinte, qui est déjà mère, mais qui ne l'est pas encore. Hein. Le royaume de Dieu, c'est cette idée-là. Il y a un déjà du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et notre relation avec lui, le fait d'entrer en lui, que lui entre en nous, eh bien, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et puis, le royaume du Père, j'ai envie de dire plutôt. Et ensuite, il y a tout un royaume qui doit naître de cette relation-là avec Jésus et qui va affecter plus que notre sphère privée. Ça, c'est notre conviction dans notre réseau, c'est que cette rencontre privée avec le Christ va finir par affecter d'autres dimensions qui nous dépassent et de loin la seule sphère privée. Heureusement et amen, sinon le royaume de Dieu serait bien petit. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début de Marc 9. Donc cette entrée dans le royaume de Dieu, elle se fait déjà dans la vie, dans cette vie-là. Puis ensuite, vous savez, Jésus va emmener trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne. Et il va y avoir une transfiguration. Hein, on pense que c'est le mont Tabor. Hein, sur le mont Tabor, il va y avoir cette transfiguration de Jésus. Quand je pense qu'il y a des théologiens qui se demandent est-ce que Jésus était conscient de sa divinité, je me dis mais punaise, mais comment on peut se poser des questions pareilles alors que je pense que quand Jésus lui-même s'est transfiguré, il devait avoir peut-être en tout cas s'il ne savait pas qu'il était Dieu, à mon avis il a dû avoir un gros doute à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire, ou alors il a dû être rassuré dans son identité. Non, arrêtons de dire des bêtises, si vous, quelques instants, franchement, il y a cette transfiguration, et le pauvre Marc, et j'aime beaucoup le pauvre Marc, mais le pauvre Marc, on sent que son vocabulaire est un petit peu limité, c'est pas moi qui le dis, hein. Les théologiens s'accordent pour dire ça, ça ne veut pas être un grand intellectuel, mais quel cœur, quelle vie, waouh. Il dit, son vêtement était plus blanc, tel que des vêtements blancs comme ça, on ne peut pas en faire sur la terre. Mais on a l'impression qu'ils vendent la lessive à cet endroit-là. Franchement, c'est pas très glorieux ce qu'il dit concernant la blancheur du vêtement. Je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître. Mais je me mets à la place de vous savez, cette blancheur qui émane du Christ lui-même, qui montre qu'il est le seul saint, il est le saint d'Israël. La sainteté même d'Israël. Voilà, elle transparaît au travers de ses vêtements et notre Marc, il a vu le vêtement blanc, quoi. Il a vu la blancheur du vêtement, ça l'a complètement... Puis comment interpréter quelque chose comme ça que vous n'avez jamais vu? Nous, on a le cinéma, hein, qui nous a préparé à ce genre de choses. On a eu plein de choses. On a la lumière électrique. Comprenez ça aussi. Il avait comme lumière éclatante que le soleil. Comprenez. Mais là, tout d'un coup, le soleil n'est que reflet sur les choses. Là, tout d'un coup, il voit quelque chose qui est éclairé de l'intérieur. Il n'avait jamais vu ça avant, le pauvre Marc. Et donc, il est obligé de parler de vêtements qui sont éclatants, etc. Mais il y a dû y avoir quelque chose qui sort de l'intérieur, magnifique, quoi. Et puis, vous savez, à ce moment-là, il y a Élie et Moïse qui sont à droite et à gauche et qui discutent avec le Christ. Et à ce moment-là, et c'est clairement dit, Pierre qui a la trouille, ça c'est génial, j'aime Marc pour ça parce qu'on sait exactement. Vous voyez, ce qu'il y a de génial avec les évangiles, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais flatteurs pour les auteurs, alors que c'est eux qui l'ont écrit. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette vulnérabilité des évangélistes, quand ils parlent d'eux, franchement, les évangélistes qui sont mis en scène dans les évangiles par les propres évangélistes, finalement, ce n'est pas des images très, très, très flatteuses. Et j'apprécie énormément cet humour sur soi, ce regard sur soi, sans se la péter, quoi. J'aime énormément ça. Et notamment Pierre qui dit il a la trouille, il a peur, et il dit surtout n'importe quoi, et c'est écrit, hein, il dit n'importe quoi parce qu'il avait peur, il dit faisons ici trois tentes. Pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi quand on a peur et qu'on dit n'importe quoi, on dit faisons trois tentes? En quoi c'est n'importe quoi de dire faire trois tentes à Jésus, Élie et Moïse? Et finalement, je crois que finalement le problème de ces trois tentes, elles vont complètement en contradiction avec ce que le Seigneur lui-même va dire du haut des cieux en disant « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Et quand finalement la nuée se retire, il est écrit, et vous lirez ça dans les versets 5-6 de Marc 9, quand finalement la nuée se retire, il ne resta que Jésus seul. Autrement dit, c'est quoi? Comment on doit interpréter cette expérience? Jésus qui parle avec Moïse et Élie. Moïse, c'est bien sûr la loi, c'est la Torah. Hein. Il est là pour représenter la Torah. Et Élie, c'est aussi le prophète emblématique. Hein. D'ailleurs, les deux sont les deux seuls qui ont pu vraiment vivre indemnes dans le feu. Je vous rappelle que Moïse est celui qui a conduit le peuple d'Israël dans le feu, de la nuée la nuit, et Élie est celui qui, appelant le feu, avait comme domestiqué quelque chose du feu et donc était protégé par le feu, mais il pouvait appeler le feu et faire des barbecues avec des compagnies de soldats, des cinquantaines, avec leur chef. Deux fois, la troisième fois, le dernier s'est prosterné devant lui, vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, quand vous comptez bien le nombre de gens qui sont passés par le feu, ça donne la valeur numérique des 153 poissons que Jésus a pêchés, d'ailleurs. Bon, ça, c'est un petit détail. Et donc, lorsqu'on voit Moïse et Élie, forcément, ils représentent la loi et les prophètes. Or, en Israël, quand vous dites la loi et les prophètes, à l'époque de Jésus, vous dites l'entièreté de la révélation connu à l'époque. C'est-à-dire que c'était une manière d'ailleurs de ranger tous les rouleaux sur les étagères. Vous commenciez par les rouleaux de la Torah, vous rangiez les rouleaux de la Torah, et quand vous aviez fini de ranger les rouleaux de la Torah et les autres livres, eh bien vous terminiez avec les rouleaux des prophètes. Autrement dit, quand un contemporain de Jésus entend l'expression « la loi et les prophètes », où d'ailleurs Moïse et Élie, ils comprennent que c'est une image, bien sûr, prophétique qui est là pour nous parler de toute l'entièreté de la révolution, de la révélation écrite qui a été donnée donc au peuple d'Israël en premier, hein, et puis ensuite qui devient l'héritage des nations, mais toute cette révélation-là. Autrement dit, c'est quoi le message là ? C'est quoi le message et le message que Pierre finalement n'a pas bien interprété ? Pour Pierre, finalement, faire trois tentes, ça veut dire que l'autorité de la loi, l'autorité des prophètes et l'autorité de Jésus, c'est sur le même plan. C'est quand vous faites des tentes, vous êtes obligé de les mettre sur un truc plat comme ça, trouver un endroit plat en haut du mont Tabor et de mettre chacun sur le même plan d'égalité. Or, la voix qui est venue du ciel a dit celui-ci, en parlant de Christ, celui qui est au milieu là, vous voyez celui-là, c'est mon fils, écoutez-le. J'ai presque envie de dire, c'est lui que vous devez écouter. Parce que le danger, il est là finalement, et on va le voir dans le livre des Actes plus tard, c'est qu'à un moment donné, l'Église n'a pas su quoi faire justement de Moïse et d'Élie. D'ailleurs, on a reçu le Christ, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fait de Moïse et d'Élie ? Et il y a cette discussion dans Acte 15, et j'étais en train de méditer hier. Excusez-moi, c'est encore un peu frais, ça. C'est encore de travailler mon esprit, ça. Alors, hier après-midi, je relisais Luc 15, c'est cette fameuse truc, est-ce qu'il faut circoncire les païens ? Vous savez, quand la première fois que l'Évangile touche des non-juifs, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Est-ce qu'on les amène à judaïser ? Vous comprenez le principe ? Est-ce que finalement il faut les circoncire ? Et bien sûr, et chez les Galates notamment, juste en passant, c'était des francophones, enfin des Gaulois, les Galates. Je ne sais pas si c'était des Helvètes, mais en tout cas, c'était des Gaulois. D'ailleurs, vous savez, ils vivaient en Turquie. Vous avez déjà entendu parler de l'équipe de foot qui s'appelle Galatasaray, hein ? Ben, ça vient directement du mot Galate, puisque Galatasaray, c'est justement en ligne droite avec les Galates qui vivaient dans une contrée de Turquie là. Et c'était des Gaulois qui avaient traversé là. Donc une partie de l'Europe. Et donc ces fameux Galates qui reçoivent la vision qui reçoivent la visite de judaïsants, qui leur demandent finalement d'être de judaïser, quoi. Et vous rappelez, Paul va venir juste après et va leur dire, mais qui vous a ensorcelé, vous devant lequel le Christ, vous savez ce fameux Christ à qui le Seigneur dit depuis le haut des cieux, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, eh bien, il s'était mis à écouter. Et c'est le problème de ces judaïsants à l'époque de Paul d'ailleurs aussi. Il va falloir que l'église de Galate envoie Paul et puis Barnabas à Jérusalem pour essayer de trouver une solution. Vous trouvez tout ça dans le chapitre 15, et il y a un moment donné, et là moi à mon avis ils ont fait un compromis. Franchement, ils ont fait un compromis à ce moment-là. Moi, il me semble que la parole est un texte qui s'écrit, qui s'éclaire de plus en plus. Et là, il me semble qu'il y a eu un compromis. Parce que, OK, on ne les fait pas circoncire, mais attention, on leur interdit le sang, hein, et la viande étouffée, quoi. Franchement, je veux dire, moi, quand je relis ça, ça m'a paru tellement évident hier soir en lisant ce passage. Je me dis, mais franchement, 2000 ans après, est-ce que c'est franchement ce dont les païens avaient besoin ? Est-ce que c'est franchement ce genre de petit détail-là, de ce petit, vous voyez, cette petite amélioration-là ? Bon, OK, gloire à Dieu, pas la circoncision. Ouf, on a échappé belle, les amis. Hein. Mais je veux dire, l'histoire de oui, mais alors, les viandes étouffées, ça, par contre, on le maintient, gna gna gna, comme ça. Alors que Paul, quand il va prêcher un évangile beaucoup plus radical. Et finalement, le but finalement, de tout ça, c'est de nous dire que quand la nuée se retire, il ne reste plus que Jésus. Jésus, donc, est le seul en état de nous parler. C'est le seul en état de nous dire qui est le Seigneur. C'est le seul qui a autorité. Et vous voyez le problème, c'est qu'une lecture plate de l'Écriture, une lecture plate des versets, va faire que nous allons donner autant d'autorité à ce que dit Moïse, autant ce que dit Élie que ce que va dire le Christ. Or, la grande différence majeure entre Élie et Moïse, entre la Torah et les prophètes et le Christ lui-même, c'est que la loi et les prophètes nous parlent de lui, mais quand nous parlent de lui qu'un grand L, mais quand Christ parle, c'est lui qui nous parle, de lui-même, un peu comme Jean qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. » Alors que Jean est un fils d'Israël, évident. Et je pense que les gens, quand ils ont entendu Jean dire ça, ses frères dans la foi vont lui dire « Mais attends, Jean, tu plaisantes là ? Personne n'a jamais vu Dieu. Regarde toutes les théophanies, toutes les christophanies, tout ce qu'il y a dans l'ancienne alliance, là, toutes ces manifestations glorieuses, ces prodiges qu'on le voit. Est-ce que tu oserais dire que Moïse n'a pas vu le Seigneur dans le buisson ardent? Est-ce que tu oserais dire que Ésaïe n'a pas vu le Seigneur dans ses révélations, Ézéchiel, etc. Tous ces prophètes, tous ces hommes, cet homme qui a été Moïse. Et comment peux-tu dire qu'ils n'ont pas vu le Seigneur ? Et je pense que Jean pourrait répondre très simplement en disant « Mais moi, je suis fils d'Israël comme vous, je connais la Torah, je connais les prophètes aussi bien que vous, les amis, je connais aussi les récits des patriarches. Mon point, c'est que personne n'est venu de l'intérieur du Père lui-même pour nous montrer qui il est. Or, quiconque a vu le Fils a vu le Père. » Parce que vous, quand vous entendez, nous occidentaux, quand on entend Fils de Dieu, nous avons l'impression qu'il y a Fils de Dieu et Père là. Sauf que, souvenez-vous que c'est exactement pour cette raison que Jésus a été crucifié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, au tout dernier moment, là, avant que son compte soit scellé, il dit mais franchement, si t'es le Messie, si t'es le Fils de Dieu, dis-le nous, quoi. Arrête maintenant, arrête de tergiverser, arrête de tergiverser, là ça fait 3 ans que tu tergiverses, ça fait 3 ans que tu racontes des paraboles, ça fait 3 ans que tu dis aux gens de ne pas dire qui tu es comme ça, ça fait 3 ans même que tu as dit à ces trois lascars là, surtout ne dites pas ce qui s'est passé sur le mont Tabor, ça fait 3 ans, maintenant ça suffit maintenant, allez dis-le maintenant, lâche-le quoi, allez accouche quoi, et Jésus va dire, tu l'as dit. Et là, vous connaissez la scène et l'interprétation surtout de ce déchirement intérieur, de ce déchirement des vêtements, c'est que parce qu'en disant qu'il était le Fils de Dieu, il se faisait l'égal de lui. Tel père, tel fils. C'est pas tel père, tel fils, c'est tel père, tel fils. C'est une image de royauté. Quiconque a vu le Fils a vu le Père. C'est pour cette raison que c'est tellement important que nous revenions à l'essentiel. Nous revenions au Christ qui nous montre le Père. Parce qu'une chose est sûre, et ça je vais peut-être vous choquer d'ailleurs en disant ça, et moi ça m'a paru mais vraiment évident en Allemagne récemment. En Allemagne, il y a tout un mouvement actuellement qui date depuis d'ailleurs plusieurs années, sur l'amour du Père. C'est carrément un mouvement de fond. C'est comme une lame de fond en Allemagne. Il y a énormément de pasteurs qui revoient complètement leur relation avec le Seigneur au travers de ce mouvement-là. Régulièrement, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme une sorte de tabernacle qui se déplace en Allemagne partout, où finalement le but c'est de montrer qui est le Père, quoi. Et je me dis waouh, parce que honnêtement, en ce qui me concerne en tant que Français, on vit des événements comme ça concernant qui est le Père, la révélation du Père. Et j'ai même franchement l'impression que quelquefois, tiens, ah oui, tu enseignes sur le Père, ça t'arrive d'enseigner sur autre chose, tu vois? L'air de dire, t'as pas un autre message? Je dis, si, j'en ai plein d'autres, mais comprenez que c'est toujours par là que je reviens. Je reviens toujours à ce point central. Comme l'air de dire, ah tiens, c'est Pierre qui va parler sur le gentil papa, etc. Mais sauf que les amis, Christ est venu pour ça. Il est venu pour nous montrer le Père. Quiconque a vu le Fils a vu le Père. Et le but de Christ n'a jamais été de se montrer lui-même. Mais jamais, jamais, jamais. Bizarrement, on a appelé notre mouvement le christianisme, mais le but du christianisme n'a pas été de voir le Christ. C'est choquant de vous dire ça. Je sais que ça peut être hyper choquant, mais le but du christianisme, c'est de voir qui est Yahweh en vérité. C'est de voir le Père. Et alors que nous voyons le Père, et ça, c'est ça qui est génial dans la Trinité, c'est que dans la Trinité, et d'ailleurs, il y a un très beau verset que j'aime beaucoup, je ne m'en rappelle plus, il se trouve, c'est dans Romains 12, il me semble, vous savez, rivaliser d'estime les uns pour les autres. Vous connaissez ce verset? C'est la version du semeur. Tu parlais de la version du semeur, je lui rends hommage aussi ce matin. Rivaliser d'estime les uns pour les autres. Waouh, waouh. Rivaliser d'estime. Voilà, moi, c'est la rivalité que j'aimerais lancer à l'oratoire. Une rivalité d'estime. Une rivalité d'estime. Vous savez d'où elle vient, cette rivalité d'estime? Où est-ce qu'on va la trouver? Ça vient, c'est où le modèle dans la Trinité? Parce que le Père, il ne parle pas de lui-même, il parle du Fils. Le Fils, il ne parle pas de lui-même. Il va parler du Père et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, non, non, s'il vous plaît, parlez pas de moi. Moi, n'attirez pas l'attention sur moi. Arrêtez d'attirer l'attention sur moi. Hop, parlez du Fils et parlez du Père. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une rivalité d'estime. Et d'ailleurs, ça devient une danse dans la Trinité, ça, cette rivalité d'estime. C'est même une danse. Et même les théologiens appellent ça tiens, le mot m'échappe, c'est peut-être pas plus mal pour vous. ça s'appelle... Hein? La péricorèse, merci, oh là là, bravo. C'est lui, hein, le pasteur, hein? La péricorèse, waouh, c'est sorti comme ça. C'est ça la péricorèse, vous savez, quand vous faites un périple, c'est-à-dire que vous faites un tour. Vous ne faites jamais un périple quand vous allez dans un point A à un point B, d'accord? Vous faites un périple si vous faites A, B, C, A. Ça, c'est un périple, ok? Juste un petit peu de français. Donc, périple, ça veut dire qu'on part d'un point de départ et on revient, comme ça. Et il y a effectivement un quelque chose comme ça, dans la Trinité. Hein. Mais il y a aussi chorèse. Chorèse, ça peut vouloir dire aussi une danse. On n'est pas sûr choréo, etc. L'idée d'une danse, comme ça. Mais c'est l'idée, la préférence. On se préfère les uns aux autres, on s'estime les uns les autres. Et ça c'est l'ambiance du royaume de Dieu. Vous savez, là où il y a de la compétition, là où les ministères sont compétition, il n'y a pas le royaume de Dieu. Vous avez beau, là où il y a de la compétition et les ministères comme ça usent d'emphase pour dire, moi c'est moi qui ai la meilleure révélation du royaume de Dieu. Waouh, come on. Non, il y a une circulation comme ça, rivaliser d'estime. Tournez-vous vers votre voisin puis dites-lui, est-ce que tu me permets de rivaliser d'estime avec toi? Voilà, rivalité d'estime. Que la prochaine fois que je vienne à l'oratoire, j'entende Stéphane me dire, bah, Pierre, punaise, on a un sacré problème de rivalité au milieu de nous. Ah bon, Stéphane, vous avez un problème de rivalité? Oui, une rivalité. Et vous savez, c'est ce que le monde a besoin de voir, je crois. Le monde a besoin de voir tout simplement la Trinité au milieu de nous. Pour cette raison, personnellement, je trouve qu'on devrait prêcher beaucoup plus la Trinité. Et tu sais, on parle... Sûrement des gens comme nous vont parler des cinq ministères, gna gna gna, et tutti quanti, et c'est très bien. Mais sachez qu'Éphésiens 4 commence par une réalité, commence toujours par la Trinité. Autrement dit, si Éphésiens 4 est le fameux message de apostolique, je dirais, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'apostolique commence par une Trinité, commence par une famille. Commence par le fait de s'estimer les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.
Merci, Pierre. Merci beaucoup.